Bien, puisqu'il est 19h, et pour ne pas pénaliser ceux qui sont déjà là, nous allons commencer, si vous voulez, cette quatrième et dernière séance au cours desquelles je vous ai exposé les principaux jalons historiques de la bataille laïque depuis la victoire des Républicains, du Parti Républicain en 1879, jusqu'à la conclusion de la loi, l'adoption plus exactement de la loi de séparation des Églises et de l'État le 9 décembre 1905, et les épisodes qui ont suivi. Nous avons donc, au cours des deux premières séances, abordé ces questions proprement historiques. Dans la troisième, nous avons essayé de réfléchir à la signification de la loi du 9 décembre 1905, et aujourd'hui, je voudrais reprendre, à partir de la période historique à laquelle nous nous sommes arrêtés, c'est-à-dire les années 1930, jusqu'à nos jours, une réflexion historique à nouveau qui conclura donc l'ensemble de ce cycle. Conclusion de plusieurs décennies de luttes politiques et idéologiques pour républicaniser la société et laïciser l'État, la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Églises et de l'État s'impose finalement dans le paysage français comme un compromis acceptable dès le milieu des années 1930. Dès cette époque, nous assistons à une sorte de déplacement de la question laïque. Ce n'est plus une question de pouvoir. Selon la formule républicaine de l'époque, on pourrait dire le juge est à son tribunal, l'instituteur à son école, le maire à sa mairie et le curé à son église. Donc ce n'est plus une question de pouvoir, chacun a retrouvé, semble-t-il, sa place. Mais la laïcité, la question laïque, demeure un enjeu. Et on le verra tout au long des décennies qui suivent, notamment avec la question récurrente de l'école. Et enfin, la question laïque devient une question sociale, c'est-à-dire un moment du pacte républicain, et une question sociétale, parce qu'elle représente une valeur du vivre ensemble. Au moment du centenaire de la loi de 1905, c'est-à-dire il y a 4 ans, mais on l'avait vérifié également au moment de la loi sur l'adoption de la loi sur le port des signes ostensibles, des signes religieux ostensibles dans l'éducation nationale, et on le vérifie encore dans les mois écoulés avec les discours du président de la République à Saint-Jean-de-Latran, lors de son voyage également à Riyad et lors de l'accueil en septembre 2008 du pape Benoît XVI à Paris. On vérifie donc que la loi de 1905, si c'est un carrefour vers lequel convergent les problèmes de la laïcité, c'est également un carrefour d'où rayonnent les débats autour de la laïcité. C'est un point de convergence et également un point de rayonnement. Et c'est me fondant sur cette problématique, à la fois donc point de convergence et point de rayonnement, que je vais essayer aujourd'hui donc de traiter une période, en la brossant à grand trait bien entendu, qui commence dans les années 1930 et qui s'achève aujourd'hui, ou disons en 2007. Et pour ce faire, je vais utiliser 7 mots-clés que je vais décliner au fur et à mesure de mon exposé. Je vous donne ces mots-clés, vous les retrouverez et je vous expliquerai ce qu'ils signifient chaque fois. Premier mot-clé, contestation. Deuxième mot-clé, revanche. Troisième mot-clé, constitutionnalisation. Quatrième mot-clé, réaction. Cinquième mot, offensive. Sixième mot, accommodement. Et septième mot, instrumentalisation. Je commence donc directement par contestation. Il y a au milieu des années 30 une tentation contestataire dans les milieux religieux et plus particulièrement dans les milieux catholiques. Nous avons vécu la période de l'adoption de la loi de séparation des Églises et de l'État. Le compromis avec Rome a été trouvé autour des années 23-25. L'action française a été condamnée, c'est-à-dire le mouvement nationaliste et réactionnaire a été condamné par le pape Pie XI en 1926. En 1930, c'était là-dessus que je m'étais arrêté dans l'avant-dernier exposé, en 1930, Rome pèse de tout son poids pour concrétiser un second ralliement. Vous savez ce qu'était le premier ralliement ? C'était la tentative du pape Léon XIII de faire en sorte que les catholiques ne posent plus la question de la République, mais considèrent que c'était le régime qui rassemblait l'immense majorité du peuple français. Et le premier ralliement avait échoué dans une certaine mesure, même dans une mesure certaine, et s'était trouvé entrelacé aux questions de la séparation des Églises et de l'État. En 1930, donc, la papauté, le pape Pie XI, pèse de tout son poids pour concrétiser un second ralliement. Mais c'est moins un ralliement à la République qu'à la société moderne. La question de la République ou de la monarchie, c'est une question qui est derrière, qui est dépassée, je l'ai dit, depuis 1926. Le seul mouvement royaliste qui avait eu d'ailleurs une influence intellectuelle considérable entre 1899 et 1925, l'Action française, a été condamné par le pape. L'heure est pour le religieux, le monde religieux, à la valorisation de la doctrine sociale de l'Église. Le pape Pie XI publie en 1931 une encyclique intitulée « Quadragesimo anno », c'est-à-dire la 40e année, qui est la commémoration de la publication en 1891 par le pape Léon XIII de l'encyclique « Rerum Novarum », qui était l'aggiornamento, un des premiers aggiornamento au point de vue social de l'Église. Ce même pape Pie XI crée en 1922 l'Action catholique italienne avec pour objectif moins la puissance de l'Église que son indépendance et son influence. Et tout au long des années 30, ces mots de indépendance et d'influence vont traverser la bataille laïque, si l'on peut dire, ou en tout cas le conflit entre la laïcité et le courant entre la laïcité et le courant religieux. Alors, quand je dis conflit, c'est à beaucoup nuancé parce qu'on va le voir, il y a beaucoup plus de moments de rapprochement que de moments de division. Il faut savoir que l'Église, dans ces années-là, entre 1919 et 1929, prend un certain nombre d'initiatives qui vont avoir une incidence considérable dans les relations du pacte laïque qui est en train de se former. En 1919, ainsi, a été fondée la Confédération française des travailleurs chrétiens. Donc, un syndicat chrétien, c'est la première fois. En 1924, un premier parti politique se réclamant ouvertement du catholicisme, qui est un parti de droite, est fondé, qui s'appelle la Fédération nationale catholique, dont le président est un général illustre de la guerre de 14, qui s'appelle le général de Castelnau. En 1927, sont créés respectivement à Clichy et à Barège la JOC, la jeunesse ouvrière catholique, et la JAC, la jeunesse agricole catholique. Et enfin, en 1929, la jeunesse étudiante catholique, la JEC. En fait, la laïcité qui a été fondée par la loi de 1905 développe un climat de débat dans, non seulement dans la société, mais plus particulièrement dans le camp religieux. Et on va voir quelques-uns des épisodes de ce débat dans les années 30 qui vont nous amener jusqu'à la guerre, jusqu'en 1939. Premier épisode de ce débat, je le qualifierais, c'est la question de l'engagement social. L'épisode, il est le suivant. Le consortium du textile de Roubaix, les grands patrons du textile de Roubaix, qui sont des patrons catholiques, se plaint à Rome, aux alentours de 1924, de l'influence et du rôle du syndicalisme chrétien dans les entreprises textiles. La sacrée congrégation du concile, qui est chargée d'examiner cette plainte, va mettre son temps pour discuter de la plainte des patrons du textile de Roubaix. Ça va durer exactement 5 ans, et en 1929, cette sacrée congrégation rend publique sa position, et non seulement elle rend publique sa position dans un petit cercle, mais elle la diffuse le plus largement possible sur le thème « L'Église ne peut pas être neutre entre les patrons et les salariés ». Et elle choisit, l'Église, donc Rome, choisit de s'adresser au cardinal Lienhardt, qui est le jeune évêque de Lille, qui était au centre de l'affaire. Et la Sacrée Congrégation du Concile écrit au cardinal Lienhardt qu'il est évident que la constitution de syndicats distingue les syndicats patronaux n'est pas incompatible avec la paix sociale, puisque d'une part ils répudient par principe la lutte des classes et le collectivisme sous toutes ses formes, et que de l'autre ils admettent la forme de contrat collectif pour établir des rapports pacifiques entre le capital et le travail. Donc, première idée, la laïcité contribue par contre-coup dans le camp d'en face à légitimer un syndicalisme chrétien, le syndicalisme chrétien qui a désormais droit de cité dans l'Église elle-même. Vous voyez donc ce rapport dialectique entre la loi de 1905, ce que ça a créé comme climat, et les incidences que cela a dans la société et dans le camp d'en face, si j'ose dire. Premier élément, un engagement social. Deuxième épisode important, ce que j'appellerai l'engagement international. Le directeur de la vie catholique de l'époque, qui s'appelle Francisque Gay, félicite en 1931 Aristide Briand, qui est président du Conseil, pour un discours qu'il vient de prononcer en faveur des solutions négociées des conflits internationaux, et félicitant du même coup l'Aristide Briand, qui est considéré par l'Action française comme le Bosch, successeur de Jaurès à cet égard, que félicitant donc Aristide Briand d'avoir permis l'intégration de l'Allemagne dans la Société des Nations dès 1926. Il se trouve que la vie catholique est suivie par le très officiel journal La Croix, qui est l'organe des assomptionnistes, et que ainsi se développe un courant qui tente à écarter l'Église du courant nationaliste. La question est même posée à l'époque, est-ce que l'Église deviendrait briandiste ? Non, elle s'éloigne tout simplement des courants réactionnaires et nationalistes. Lorsque le même Aristide Briand meurt, des obsèques religieuses sont célébrées, alors que c'était un anticlérical, même fut-il modéré, un ancien franc-maçon, etc., etc. L'Action française crie évidemment au scandale, et surtout elle crie d'autant plus au scandale que les principaux journaux d'opinion catholique, notamment donc l'Aube, qui est le journal de Francisque Gay et plus tard de Georges Bidault et de quelques autres, vont se féliciter du rôle historique joué par Aristide Briand. C'est le deuxième épisode qui montre effectivement qu'il y a un certain engagement internationaliste des milieux catholiques. Le troisième épisode est encore plus significatif, c'est la signature par la JAC, la JEC, la JOC, la CFTC, les volontaires du pape, les scouts de France, l'Action catholique, à l'exception notable de la Fédération nationale catholique du général de Castelnau, qui est un courant de droite, d'un manifeste pour un rapprochement franco-allemand. Ce qui est assez bouleversant, on s'en doute, dans cette période des années 1930, où il y a quand même une montée relative des tensions internationales et une montée des périls qui vont être concrétisés à partir de 1933 avec la prise de pouvoir par Hitler en Allemagne. Déjà, rappelons-le, depuis 1922, Mussolini a pris le pouvoir en Italie, et il y a un certain nombre de phénomènes qui vont se concrétiser dans les années suivantes à partir de la proclamation de la République en Espagne en 1931. Donc tout à l'heure j'ai dit la laïcité a légitimé par contre-coup un syndicalisme chrétien. Eh bien cette fois-ci, la laïcité génère un pacifisme chrétien. Du même coup, le pacifisme s'exprime par la voix de l'Église. C'est un deuxième phénomène qui est notable de contestation de tous les courants antérieurs et du fonctionnement antérieur des rapports entre l'Église et la société. Troisième événement qui se produit dans ces années 1930, c'est en 1935-1936, ce que j'appellerais l'engagement moral des catholiques. Et cet engagement moral va se concrétiser par l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini en 1937. Mussolini dirige l'Italie depuis 1922 à la tête d'un régime fascisant. Il a signé en 1929 un concordat avec le pape qui permet à la papauté d'avoir la souveraineté sur l'état de 44 hectares qui s'appelle l'état du Vatican, qui a par contre-coup abandonné toutes ses prétentions sur les états du pape et sur l'Italie. Donc la question se pose, que va faire le pape Pie XI, puisqu'il a signé un concordat, face à cette agression internationale sans précédent, qui est celle de Mussolini, qui se jette sur l'Éthiopie pour essayer de conquérir un empire africain. Eh bien, le pape Pie XI ne fait pas preuve de réelle politique, mais il dénonce, dans une lettre largement diffusée, il stigmatise l'expansionnisme territorial de l'Italie, il défend les normes du droit international, et les catholiques démocrates chrétiens, à l'unisson de l'enseignement du pape, demandent des sanctions internationales contre l'Italie. C'est donc un troisième élément dans ces années 30. La laïcité a, premièrement, donc légitimé un syndicalisme chrétien, généré un pacifisme chrétien. La laïcité engendre un éloignement des catholiques du courant nationaliste et belliciste. Et ce courant qui est l'ancêtre, si vous voulez, à proprement parler d'un courant antifasciste avant la lettre, s'inscrit durablement dans l'Église. Quatrième grand problème qui se pose, ce que j'appellerais l'engagement politique. Le débat est lancé dans les années 30 par le jeune directeur de la revue Esprit, qui est un philosophe, qui s'appelle Emmanuel Mounier, le fondateur de ce qu'on a appelé l'école du personnalisme chrétien. Et dans sa revue Esprit, dans le milieu des années 30, il commence à poser un problème auquel nous sommes encore confrontés aujourd'hui, même si ce n'est pas dans les mêmes conditions, c'est des conséquences de la crise. Et il met en cause ce que le philosophe et dramaturge Gabriel Marcel a appelé le monde cassé, c'est-à-dire l'univers même du capitalisme des années 1929, de la grande crise de 1929, avec le cortège immense de liquidation d'entreprises, de chômeurs, etc. etc. Et donc, là aussi, il y a dans ces années-là une remise en cause à travers un certain nombre de courants de l'Église catholique, il y a une remise en cause du système capitaliste. Écoutez ce que dit Mounier. On ne dénoncera pas assez le mensonge démocratique en régime capitaliste. La liberté capitaliste a livré la démocratie libérale, en utilisant ses formules mêmes et les armes qu'elle lui donnait, à l'oligarchie des riches, oligarchie de puissance et de classe, puis au dernier stade à un étatisme contrôlé par la grande banque et la grande industrie, qui se sont emparés non seulement des commandes occultes de l'organisme politique et de la presse, de l'opinion, de la culture, parfois des représentants même du spirituel, pour dicter les volontés d'une classe et modeler jusqu'aux aspirations des masses à l'image des leurs, tout en refusant les moyens de les réaliser. La démocratie capitaliste est une démocratie qui donne à l'homme des libertés dont le capitalisme lui retire l'usage. C'est assez formidable, effectivement. Ce texte-là cause effectivement un très grand débat à l'intérieur du monde catholique et là aussi, la laïcité permet le rapprochement entre les courants catholiques et progressistes, républicains, démocrates, socialistes, voire communistes. Et on le verra un petit peu plus loin et un petit peu plus tard, je vais y venir maintenant, à l'engagement civique, c'est l'engagement civique des années 1935-1936 avec le Front populaire. Il est très significatif que dès 1932, un révérend père jésuite, le révérend père Bernardo, dans une revue intitulée « La vie intellectuelle », publie un article sur le thème « Dieu est-il à droite ?» Et il y répond négativement. Il dit « L'Église est au-dessus des partis. La droite apporte une réponse, la droite sépare la politique de la morale. » Elle répugne à l'arbitrage international, elle rejette toute législation sociale, elle ne peut pas recueillir, la droite, les suffrages des catholiques. Dans le même temps où le père Bernardo, en 1932, publie cet article dans La Vie intellectuelle, à quelques encablures des élections qui auront lieu le 26 avril et le 3 mai 1936, le Parti communiste, par la voix de son secrétaire général de l'époque, Maurice Thorez, pratique ce qu'on appelle la politique de la main tendue, c'est-à-dire l'idée que par-delà les divergences qu'il peut y avoir au niveau de la foi entre catholiques et communistes, le même destin unit les travailleurs catholiques et les travailleurs communistes, puisqu'ils supportent les mêmes conséquences de la crise. Ce qui suscitera effectivement un très grand débat auquel des gens comme des intellectuels et des écrivains comme François Mauriac vont se mêler de manière d'ailleurs extrêmement prudente. Parce que, effectivement, comme on le voit dans le texte de Mounier, déjà la question du communisme et de l'engagement communiste se pose par rapport à l'Église catholique dans une période où le stalinisme est dominant en Union soviétique. La laïcité donc favorise l'émergence politique d'un catholicisme de gauche et un débat s'instaure dans l'Église. Et c'est donc, vous le voyez au travers de ces différents aspects, et j'en terminerai ainsi sur ce premier chapitre, à travers ces différents aspects, on est passé d'une question de laïcité, question de pouvoir, est-ce que c'est le curé ou est-ce que c'est le maire qui dirige, est-ce que c'est l'Église ou est-ce que c'est l'État qui dirige, à un rapprochement, et un rapprochement sous le signe de la contestation de l'ordre établi. Et le dernier élément de cette période, et nous serons à la veille de 1939, c'est la guerre civile d'Espagne, qui commence le 18 juillet 1936 et s'achève en mars 1939, où là, la fracture est flagrante dans le monde catholique, d'abord entre les gens de droite eux-mêmes, puisque des gens comme Bernanos et comme Mauriac vont d'abord être franquistes, et puis très très rapidement, Bernanos à travers son séjour à Majorque, et Mauriac à travers le cas de Guernica, du bombardement de Guernica et le sort du peuple basque, vont très vite se retirer leur bille, si l'on peut dire, et condamner solennellement, et avec d'autres, évidemment, qui ne sont pas catholiques, la manière dont l'Église bénit la guerre civile d'Espagne. Je vous rappelle la formule du cardinal Beaumont et Thomas, « Béni soient les canons si dans les brèches qu'ils ouvrent fleurit l'Évangile ». Et c'est ainsi donc que est approuvé par l'Église le bombardement du peuple catholique basque à travers le bombardement de Guernica et les événements que raconte Bernanos dans Les grands cimetières sous la lune, événements qui ont été confirmés par Antoine de Saint-Exupéry, qui disait « Ici, l'on fusille comme l'on déboise ». En résumé, donc, de cette première partie, la laïcité agit à la manière d'une libération et d'un révélateur dans le monde religieux. Le monde religieux va trouver une visibilité originale dans la société qui dépasse désormais la question cléricale ou anticléricale. Je serais tenté de dire à la fin de cette première partie que la laïcité donne du sens à l'expression religieuse. Ce qui apparaît assez paradoxal quand on sait le conflit de 1905. Nous en arrivons donc à la période de la guerre, et j'ai autant la première période c'était sous le signe de la contestation, la deuxième période, je l'ai intitulé « Revanche » et on le comprend pourquoi, puisque le régime de Vichy, le régime qui s'installe à partir du 10 juillet 1940 à Vichy sur la base de la défaite militaire de la France, va être un régime ultra-clérical. C'est d'ailleurs une banalité que de dire que le régime de Vichy est un régime clérical, puisque l'un des principes de la Révolution nationale initié par le maréchal Pétain, c'est de s'en prendre d'emblée à la rupture fondatrice dans notre société pour la laïcité, qui est la Révolution française. 1789, c'est l'origine de tous les maux de la société française qui ont amené, on le lit dans les textes de l'époque, qui ont amené, disent les pétainistes, disent les artisans de la Révolution nationale, à la défaite de 1940. Il se trouve que le slogan de l'État français, travail, famille, patrie, correspond tout à fait à ce que la hiérarchie catholique la plus conservatrice défend, et les évêques n'auront de cesse d'affirmer leur fidélité, voire même leur vénération au, entre guillemets, sauveur de la France. On verra, évidemment, dans les actualités de l'époque, vous les voyez encore de temps à autre lorsqu'il y a des films sur cette époque-là, le maréchal Pétain reçu en grande pompe par les cardinaux, les évêques et les archevêques, symbole même de cet attachement entre l'Église et le régime pétainiste. La phrase du cardinal Gerlier, qui sera plus tard archevêque de Lyon, car Pétain c'est la France, et la France c'est Pétain. Mais en même temps que ce régime est clérical, c'est un régime qui met en cause effectivement la laïcité. Il met en cause la laïcité parce que c'est un régime qui est fondé sur les idées de Maurras, les idées de Charles Maurras et de l'Action française. Or, on le sait sans doute, et en tout cas je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui l'auraient oublié, le principe même du nationalisme intégral, c'est-à-dire de la doctrine maurrassienne, c'est la dénonciation de ce qu'il appelle les quatre États confédérés. Qu'est-ce que c'est que les quatre États confédérés qui rongent la souveraineté nationale française? Ce sont les Juifs, les protestants, les francs-maçons et les bolcheviques. Et c'est eux donc qu'il faut extirper. Et on commence effectivement en octobre 1940 par l'adoption, par le régime de Vichy, du statut des Juifs. C'est-à-dire qui interdit systématiquement à tous ceux qui sont réputés juifs ou ont des ascendances juives, avoir une ascendance juive, alors que ce n'est pas une race, mais jamais qu'une religion, tout le monde le sait, c'est si son grand-père a été juif, ou son arrière-grand-père, ou si sa mère, ou son arrière-grand-mère, etc., etc. Lorsqu'on lit le texte d'octobre 40, le statut des juifs, on s'aperçoit effectivement que on est revenu à une période littéralement médiévale de persécution par les rois de France, des juifs avec les expulsions successives. Ça, c'est la première chose, c'est donc à l'octobre 40. Mais auparavant, dès le 3 septembre 1940, par un article unique pris par le Conseil des ministres, puisqu'il n'y a plus de Parlement, on supprime la loi du 7 juillet 1904 qui supprimait elle-même l'enseignement congréganiste. Et on supprime également un autre dispositif légal qui soumettait la création des congrégations religieuses à une autorisation préalable. Désormais, il suffira du contre-saint du ministre secrétaire d'État à l'instruction publique et aux beaux-arts qui s'appelle Émile Miron pour qu'on puisse créer, comme l'on voudra, des congrégations. C'est un véritable retour en arrière. C'est une revanche sur tout le passé républicain. Et le 8 avril 1942, le Conseil des ministres de Vichy remplace la loi de 1901, notamment l'article 13, dont nous avons parlé précédemment, selon lequel une congrégation ne pouvait se former sans une autorisation donnée par la loi. Il y aura un nouvel article 13, selon lequel toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État. Ce qui veut dire, comme tout est à la botte du maréchal Pétain, on pourra faire tout ce que l'on voudra. Mais ce qui suscitera sans doute le plus de débats contradictoires à l'intérieur même du régime de Vichy progressivement, c'est quand même la question scolaire elle-même. Certes, j'en ai parlé, les congrégations. Il y a les congrégations scolaires, mais il n'y a pas que les congrégations scolaires. En fait, à la fin des années 1930, l'épiscopat français avait demandé qu'on révise, sinon la loi de 1905, du moins l'aide que l'État pouvait apporter aux écoles privées et militer particulièrement l'épiscopat pour un enseignement religieux au sein des écoles publiques. Et le gouvernement de Vichy va entendre ce que les gouvernements radicaux des années 1930, ou socialistes des années 1930, avaient refusé d'entendre. Effectivement, la première chose, c'est le 15 octobre 1940, les écoles privées vont pouvoir bénéficier désormais des secours de la caisse des écoles publiques. Par un arrêté de novembre 1940, le philosophe Jacques Chevalier, qui est secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, autorise l'enseignement des devoirs envers Dieu dans les écoles. Il ne s'agit pas, précise-t-il, d'une notion d'ordre confessionnel. Non. Les instituteurs n'auront pas enseigné un dogme aux enfants, et ils s'appuient sur Platon. Platon qui dit « Dieu doit être considéré comme la norme de toute chose ». C'est ce que dit le philosophe Jacques Chevalier, qui a trafiqué un petit peu un certain nombre de textes. Et il ajoute « En inscrivant dans ses programmes les devoirs envers Dieu, en admettant ainsi la notion divine dans son enseignement, l'État ne patronne pas une croyance ou une église aux dépens des autres. Il ne fait que reconnaître, c'est au fond son intérêt, l'une des acquisitions permanentes de la raison, celle que la pensée humaine doit tout temps poser comme la seule base possible de la morale. » C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de morale pour le régime de Vichy sans référence à Dieu. Mais on retourne effectivement en arrière, puisque la circulaire du 18 juillet 1933, signée François Guizot, ministre de l'Instruction publique et président du Conseil sous Louis-Philippe, invitait les instituteurs à affermir ces principes impérissables de morale et de raison sans lesquels l'ordre universel est en péril, à développer donc la foi dans la providence et la sainteté du devoir. La boucle est bouclée, on revient effectivement en arrière. Et pour faire bonne mesure, par la loi du 6 janvier 1941, on fait entrer l'instruction religieuse à titre d'enseignement à option dans les horaires scolaires selon la volonté des parents. Mais le maréchal Pétain, qui n'est pas un grand catholique, c'est même quelqu'un qui est assez, assez libertin dans sa vie privée, on l'a beaucoup raconté, n'est pas très favorable à ce régime clérical. Et il va proposer la nomination d'un nouveau secrétaire d'État à l'éducation nationale, qui est l'historien Jérôme Carcopino, le frère d'ailleurs du romancier Francis Carco, qui est un grand spécialiste de la République romaine. Et il le fait pour s'opposer aux velléités des Allemands, qui veulent la nomination d'un écrivain et romancier largement oublié, tant mieux, qui s'appelle Abel Bonnard, qui sera plus tard ministre de l'Éducation nationale. Donc d'abord Jérôme Carcopino, qui lui a l'intention de rétablir ou de restaurer la neutralité religieuse de l'État dans les écoles. Et il demande d'abord l'abrogation de la mesure prise par Chevalier des devoirs envers Dieu. Il dit « Mieux vaut ne pas parler de Dieu en classe que d'en mal parler. Mais je souhaite, dit Jérôme Carcopino, que place soit faite au christianisme dans l'histoire de la France, parce que tout instituteur, quelles que soient d'ailleurs ses opinions intimes, saura raconter à ses élèves la vie de cette Jeanne d'Arc à exalter Michelet, qui est la référence la plus grande à l'époque. Donc, Carcopino veut plutôt la réconciliation des Français. Et il ne serait pas très éloigné de la formule républicaine que je citais au début, l'instituteur à l'école, le curé à l'église. Et il y ajouterait d'ailleurs, dit René Raymond, l'instituteur ami du curé. C'est-à-dire, vous savez, comme dans la femme du boulanger, l'instituteur et le curé qui s'enguirlandent, là, ben, ils s'embrasseraient, quoi, en fait. Et chez les radicaux qui ont rallié le régime de Vichy, chez ce qu'on appelle la gauche vichyste, il y a effectivement une certaine attention à ces propos de Jérôme Carcopino, donc qui est le ministre de l'Éducation nationale, à l'époque ça s'appelle secrétaire d'État, puisque le président de la République et le Premier ministre et le président du Conseil, tout ça c'est Pétain et Laval, etc. Donc, une grande partie du monde catholique va demeurer très dubitative devant cette espèce de neutralisation de l'école qu'a voulu le maréchal Pétain. Mais au fond, ce ne sont quand même que des phénomènes limités, parce que ce qui est important, ce sont les actes. et non pas les principes. Alors certes, on a pu supprimer l'enseignement des devoirs envers Dieu à l'école, mais une loi signée par le maréchal Pétain le 2 novembre 1941 introduit une subvention départementale accordée par le préfet aux écoles privées en fonction des circonstances. Et l'État versera 386 millions de francs aux écoles privées au budget de 1942, sachant qu'il versait plusieurs milliards de remboursements à l'Allemagne, puisque nous étions, semble-t-il, responsables de la guerre. 386 millions de francs aux écoles privées au budget de 1942. Il n'est donc pas surprenant que l'un des premiers gestes de l'Assemblée consultative d'Alger en 1944, avant que soit rétablie la légalité républicaine, soit de demander l'abolition de ces subventions à l'enseignement privé. Le général de Gaulle va refuser, au nom d'une vision d'union nationale, d'abroger ces subventions, mais une commission présidée par le socialiste André Philippe, qui est venu du christianisme social protestant, va proposer des solutions pour, et on va y venir dans la troisième partie, pour des solutions pour essayer de trouver un arrangement entre l'enseignement public et l'enseignement privé. En attendant, le 29 mars 1945, une majorité laïque de l'Assemblée consultative, conduite par le communiste Georges Cognon, vote par 128 voix contre 48 la suppression de toutes les subventions à l'enseignement privé. Le général de Gaulle dira à son collaborateur René Brouillet, qui sera plus tard ambassadeur au Vatican, ne peut faire autrement que de prendre acte de la réaffirmation des sentiments de la majorité des formations représentatives de la résistance. On en vient ainsi, effectivement, à la question de l'école, qui sera la question centrale de la 4e République et donc du troisième moment que je veux aborder maintenant, celui de la constitutionnalisation. Au lendemain de la libération, les relations entre les Églises et l'État se sont pacifiées. Il est inutile que j'insiste là-dessus. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, les catholiques, les protestants, les juifs et d'autres se sont battus dans le même camp que les athées, les agnostiques ou les libres penseurs. La laïcité va obtenir pour la première fois, depuis 1795, une valeur constitutionnelle, puisque le préambule de la Constitution de 1946 dispose que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et ce préambule sera repris dans la Constitution de 1958 qui y ajoutera que la République respecte toutes les croyances. C'est cette Constitution qui nous régit actuellement. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale qui respecte toutes les croyances. C'est le préambule de notre actuelle Constitution. Le 13 novembre 1945, les évêques et cardinaux de France, et c'est sans précédent, publient une déclaration en indiquant que la laïcité est la souveraine autonomie de l'État. Mais en même temps, on comprend que ce mouvement qui est lié à la libération va générer un certain nombre de phénomènes dans le monde croyant. Et en particulier, je le citerai sans m'y attarder, le mouvement des prêtres ouvriers qui va commencer à partir de 1949 et qui sera sanctionné par l'Église et le pape Pie XII à partir de 1954, donc il durera 4 à 5 ans. Le mouvement des prêtres ouvriers montrant que, effectivement, l'Église catholique en particulier a l'intention de s'intégrer dans la société et de ne pas faire de la différence de croyance ou de conviction religieuse un élément de séparation entre les hommes, et au contraire de montrer que des prêtres peuvent, à côté de gens qui ne sont pas croyants, travailler dans la même entreprise, dans la même usine, pour ou lutter pour le même changement de société. cette pastorale de la mission de France, puisqu'elle s'appellera ainsi, est une aventure intellectuelle et sociale extrêmement intéressante de cette époque-là, dont, de manière romancée, certes, mais avec une certaine conviction, le romancier catholique Gilbert Cesbron a rendu compte dans les saints vont en enfer. Pardon. Dernier élément sur ce climat général à la libération, donc de rapprochement entre croyants et incroyants, ce que dit le ministre du mouvement républicain populaire Maurice Schumann, qui a été un des plus proches compagnons de De Gaulle à Radio Londres, il dit « La laïcité de l'État signifie son indépendance vis-à-vis de toute autorité qui n'est pas reconnue par l'ensemble de la nation, afin de lui permettre d'être impartial vis-à-vis de chaque membre de la communauté nationale et de ne pas favoriser telle ou telle partie de la nation. » Merveilleuse définition de la laïcité par quelqu'un qui est un des représentants donc, du mouvement républicain populaire, le parti de la démocratie chrétienne qui existera pendant une vingtaine d'années à partir de la libération. Et dont aujourd'hui François Bayrou avec le MoDem se réclame de manière plus ou moins directe. En réalité, ce rapprochement de la libération, de la résistance à la libération, a sans doute réglé la question de la séparation des Églises et de l'État. Mais c'est avec la question de l'école que va réémerger la querelle laïque, et notamment la question du financement public de l'école privée. Déjà, à la libération, la question s'était posée à droite. Ne faut-il pas nationaliser l'école confessionnelle ? C'était ce que l'historien Henri-Irénée Marou posait comme question dans la revue Esprit. Ne faut-il pas, disait Monseigneur Latreille, unifier les deux réseaux, c'est-à-dire le réseau public et le réseau privé ? Monseigneur Latreille, qui avait l'oreille du Vatican à l'époque, et qui donc est l'oreille de l'épiscopat français, et qui écrivait ceci dans la revue Esprit. En réalité, le préambule de la Constitution de 1946 affirme bien que le droit à l'instruction et l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque, à tous les degrés, est une exigence de la nation. Mais dès 1948, par des décrets voulus par les ministres MRP, les fameux décrets Poinçot-Chapuis instaurent une aide pour favoriser la scolarisation des enfants, des familles, nécessiteuses ou en difficulté dans les établissements privés. Et dès 1951, la loi Marie étend aux élèves du privé les bourses d'État et la loi Barranger attribue une allocation mensuelle par élève sans distinction de système d'enseignement. Par trois épisodes, donc 1948, les décrets Poinçot-Chapuis, la loi Marie de 1951 et la loi Barranger de la même année, effectivement, tout ce qui avait été annulé par l'Assemblée consultative en 1946 revient en force. Et il faut attendre le gouvernement de Guy Mollet en 1956-1957 pour que soit reposée la question scolaire. Mais de manière assez curieuse, puisqu'est mise en place une commission qui est chargée de dépasser, notez-le bien, la question du dualisme et d'engager des négociations avec Rome pour en finir avec la querelle scolaire. Sur la base de deux principes, qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Premier principe, l'ouverture plus large de l'école publique aux familles spirituelles, donc aux familles qui ne sont pas forcément des familles catholiques ou même des familles croyantes. Deuxième principe, un système intermédiaire entre les écoles publiques et les écoles privées fondé sur le contrat. Je m'en arrête là parce qu'on passe tout de suite au quatrième point, à la fin, on est à la fin de la 4ème République, 1957, 1958, retour au pouvoir du général de Gaulle, période de réaction. Les principes de la commission Guy Mollet sont repris par la loi Debré du 31 décembre 1959. On va infléchir dans le sens le plus favorable à l'enseignement privé les principes qui avaient été émis par la commission du travail du gouvernement Guy Mollet, en contrepartie d'aides financières très substantielles, c'est-à-dire le salaire la prise en charge du salaire des enseignants et des frais de fonctionnement des établissements privés. Les programmes de l'enseignement public doivent être adoptés par l'enseignement privé, et ainsi que les élèves sont acceptés sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, dans le respect total de leur liberté de conscience, cependant que les établissements confessionnels privés gardent leur caractère propre. Ça veut dire qu'effectivement, on a pris acte de ce qui s'était passé au début de la 4e République et on le tire dans le sens le plus favorable à l'enseignement privé. Évidemment, le Comité national d'action laïque, créé en 1946 dans la perspective de la libération, s'insurge très fortement contre la décision qui induit la loi Debré et lance une pétition qui recueillera 11 millions de signatures. C'est une des pétitions qui a recueilli le plus de signatures pour la défense de l'école publique. Cependant que le Conseil supérieur de l'éducation nationale dénonce, je cite, c'est composé de hauts fonctionnaires nommés par l'État, hein, l'antinomie entre l'affirmation de l'État qui prétend vouloir assurer la neutralité de l'enseignement et les exigences des confessionnels qui entendent ne pas renoncer à l'enseignement militant. Et bien, malgré tout, le 31 décembre 1959, la loi Debré est adoptée par la majorité, comme dirait le Canard Chine de l'époque, de Godillot de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même s'interroger, c'est pas simplement parce qu'il y avait une majorité politique. Il faut voir dans quel contexte ça se passe, c'est le contexte de la guerre d'Algérie. C'est le contexte de la chute de la 4e République et de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle avec une confiance, 80% des gens ont approuvé la Constitution de 1958. En même temps, sur le plan international, un certain nombre de choses changent. Depuis 1958, le pape Pie XII, qui avait été un des papes les plus réactionnaires de l'histoire de l'Église, le vicaire qui n'a pas ouvert la bouche pour le sort des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, a disparu, donc le pape Pie XII, il a été remplacé par le pape Jean XXIII, et commence en 1959 les pré-travaux du Concile Vatican II. Et dans l'enseignement privé, on constate à l'époque, on enseigne aussi bien le philosophe radical Alain que celui qui a dit écraser l'infâme, Voltaire, que la catéchèse dans l'enseignement privé est considérée comme facultative et séparée des autres cours. Que, finalement, ce sont tous les éléments qu'on retrouve dans la presse de l'époque, que le caractère propre des établissements privés, c'est au fond une sorte d'acceptation de l'humanisme chrétien. Et puis, il faut aussi, ça s'appuie aussi sur le fait que la grande majorité des parents refusent le monopole scolaire. S'il n'y a à l'époque que 16% des élèves dans l'enseignement privé, les statistiques de l'époque montrent que 40% des enfants sont susceptibles un jour ou l'autre d'y passer dans l'enseignement privé. Et donc, il y a, dans l'opinion publique française, en dépit du fort attachement à la laïcité que montrent les 11 millions de signatures, une idée selon laquelle, bon, deux systèmes d'enseignement ne sont pas forcément quelque chose de scandale. Au point que l'on lit à l'époque dans un certain nombre de journaux, disons de centre-gauche, que la loi Debré pourrait bien être une forme de semi-nationalisation de l'enseignement privé, puisqu'il y a un contrat entre l'État républicain et laïque et les établissements d'enseignement privé. D'autant que, quelques années plus tard, l'épiscopat va rendre hommage à l'école laïque. Mais, dans le même temps, tout en rendant hommage à l'école laïque, le cléricalisme reprend dans une certaine mesure ses droits, puisqu'en 1977, à travers la loi Guermeur, est induit un phénomène de renforcement des subventions d'État pour l'enseignement privé et une plus grande autonomie de direction des chefs d'établissement du privé dans leurs propres établissements, c'est-à-dire un écart vis-à-vis des normes de l'enseignement public auxquelles ils sont liés sous contrat. Au fond, cette période de réaction, je n'ai pas trouvé un autre terme qui correspondait, cette période de réaction montre effectivement que la querelle de l'école fait ressurgir la question de la laïcité. Ce qui va nécessiter, par contre-coup, dialectiquement si vous voulez, une contre-offensive du camp laïque. Nous avons donc vu, je vous le rappelle, depuis le début, pour que vous vous y retrouviez bien, que je me retrouve également, nous avons vu donc, excusez-moi, je vais vous retrouver le papier. Voilà, nous avons vu donc le temps de la contestation d'abord, ensuite le temps de la revanche, le temps de la constitutionnalisation, le temps de la réaction, et nous allons maintenant aborder le cinquième mot-clé, le temps de l'offensive. Ben, le temps de l'offensive, il correspond à la campagne électorale de 1981. François Mitterrand, candidat socialiste en 1981, inscrit dans son programme la création d'un service public unifié et laïque de l'éducation nationale, le SPULEN. En précisant la méthode qui sera la sienne et qu'il va demander à son ministre Alain Savary d'appliquer, convaincre et non contraindre. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale, qui est un dirigeant socialiste averti et un homme de gauche convaincu, engage des négociations séparées dès 1982 avec d'un côté le Comité national d'action laïque et de l'autre côté le Comité national de l'enseignement catholique. Alternativement, le CNAL et le CNEC refusent le projet, l'avant-projet qui est soumis par Alain Savary. Le gouvernement choisit donc alors de présenter son propre projet tout en prenant des avis auprès des différentes instances. Les principes du SPULEN seraient les suivants. Le dualisme scolaire est terminé, il est remplacé par un pluralisme interne. Il n'y aura plus de caractère propre, c'est-à-dire plus d'enseignement confessionnel ayant de caractère propre. Mais en même temps, il y aura des expérimentations pédagogiques et pouvant avoir des références confessionnelles. Ce qui est une manière d'ailleurs de dire qu'on va enseigner le fait religieux d'une certaine manière. Mais c'est le langage de l'époque. En fait, la conviction se fait à travers le projet du gouvernement que la fin du dualisme scolaire suppose de renoncer à la nationalisation pure et simple de l'enseignement privé. Mais ce projet qui est modéré et qui aurait constitué, s'il avait été adopté, une avancée considérable vers un service public unique et laïque de l'éducation nationale est très mal pris. D'un côté, par le camp laïque qui, s'appuyant sur la majorité socialiste absolue de l'Assemblée nationale, amende en le raidissant le texte du gouvernement. Ce qui suppose par contre-coup le 24 juin 1984, à l'appel de Jacques Chirac, de l'Église catholique, des cardinaux, des évêques et des curés, 1 million de personnes qui défilent de Versailles à Paris contre la loi liberticide. Le président de la République retire la loi, Savary s'en va, arrive Chevènement qui, par des mesures partielles, conduit d'abord à l'abrogation de la loi Germer, ce qui est là une assez bonne chose, me semble-t-il, et qui va essayer de rechercher un équilibre entre la liberté de conscience et le droit au caractère propre dans l'enseignement. Ce seront des mesures partielles. Ce seront des mesures partielles qui nous amènent au sixième mot-clé, qui correspond à la période donc des années 1985-86 jusqu'aux années 1994, la période dite des accommodements. La défaite du camp laïque en 1984 ne l'a pas incité, contrairement à ce que l'on peut penser lorsqu'on regarde les documents, au repliement, même s'il y a eu à l'évidence une grande amertume. En plus, la France, dans ces années-là, devient une société de plus en plus multiculturelle. Les sociologues, les philosophes, d'ailleurs, les sociologues comme Alain Tourelle, Michel Vivorca, posent le problème des modalités d'expression des identités dans l'espace démocratique. En même temps, c'est l'époque où la philosophie de la déconstruction connaît son plein acmé avec Michel Foucault, Jacques Derrida et Jean-François Lyotard, qui contestent l'idée de l'universalisme des Lumières. D'un côté, Tourelle et Vivorca disent qu'il faut prendre en compte la diversité française. De l'autre côté, il s'agit de déconstruire ce sur quoi la République repose depuis les principes immortels de 1789. Réunis à Lourdes en 1987, les évêques réclament un débat sur la redéfinition du cadre institutionnel de la laïcité. Et la Fédération protestante de France, pourtant, je ne l'ai pas cité beaucoup, parce que en général, c'était favorable aux mesures prises par le gouvernement, la Fédération protestante de France défend cette fois le thème d'une laïcité ouverte. Donc la question se pose après l'échec du SPULEN, du service public laïque et unifié de l'éducation nationale, comment les relations peuvent être retissées entre les deux France. La Ligue de l'enseignement, dans son congrès de Lille de 1986, souhaite l'engagement d'un dialogue sur les pratiques de la séparation et organise les assises de la laïcité plurielle. Mais pendant ce temps, à la faveur des différentes alternances, la droite accentue toutes les mesures qui sont autant de chiffons rouges agités devant la communauté laïque. En 1987, il est rendu possible par la loi la déductibilité fiscale de dons faits aux associations cultuelles. En 1992, la gauche étant revenue au pouvoir, Jack Lang, ministre de l'Éducation nationale, négocie avec le père Cloupé, qui est le responsable de l'enseignement catholique, une mesure qui est plus que discutable dans l'esprit laïque, qui permet aux enseignants du privé, sans être astreints aux mêmes examens, de bénéficier des cours des IUFM. Et en 1994, il y a la tentative avortée, mais qui est effectivement une tentative fondamentale et radicale, de réviser l'article de la loi Fanon de 1850 qui limitait à 10% le taux d'investissement que pouvaient pratiquer les communes pour la construction ou l'entretien des établissements d'enseignement privés. Le 16 janvier 1994, c'est-à-dire 10 ans exactement après 1984, le million de Versaillais, 1 million de laïcs descendent dans la rue et, en hostilité à Balladur et Bayrou, puisque c'était Bayrou qui était ministre de l'Éducation nationale, pendant que le Conseil constitutionnel abroge les dispositions de la révision de la loi Fallon. Mais une question nouvelle va poser d'autres types de problèmes dans cette période-là, qui reviennent à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le problème du pluralisme. À partir des années 1975, on est passé en France d'un islam d'hommes seuls à un islam des familles, qui au surplus a été frappé par la montée du chômage dans la crise. Et donc il va y avoir une revendication de lieux de prière et de mosquées qui se développe en parallèle à la résurgence de souvenirs de ce qu'on appelle le refoulé colonial. En même temps se mélangeront l'affaire Rushdie avec la fatwa lancée contre Salman Rushdie par les Iraniens, par ailleurs sur la Roumanie, en 1989. Et pour couronner le tout, la fameuse affaire de Creil. La première affaire du foulard. Ce n'est pas la peine que je revienne sur le détail. La position de Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale, c'est le dialogue. Là aussi, c'est convaincre et contraindre à la dernière extrémité. Or, un courant républicain, conduit notamment par le philosophe Régis Debray, dénonce de la part du gouvernement et de Lionel Jospin un unique de l'école républicaine. Le Conseil d'État est appelé à distinguer dans ses conclusions de l'époque ce qui est le port ostentatoire d'un signe religieux du port simple d'un signe religieux. C'est extrêmement complexe au niveau, me semble-t-il, de la distinction, mais c'est le Conseil d'État. En fait, le Conseil d'État s'appuie surtout sur la circulaire de 1936, la circulaire du ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, Jean Zay, qui a banni tout signe distinctif de l'école laïque, et c'était d'abord une circulaire sur les signes politiques à l'époque, mais qui s'applique également aux insignes religieux. Donc il y a un débat qui est relancé entre l'occupation de l'espace public et de l'espace privé avec ce qui devient la deuxième religion en importance numérique en France. Les reproches qui sont adressés à l'islam à l'époque, c'est le refus de la sécularisation, le refus de s'intégrer au modèle laïque, les facteurs internationaux qui interviennent dans ces années-là et qui vont culminer en 2001 avec les attentats du World Trade Center, mais aussi la résurgence permanente du refoulé colonial. Nous n'avons pas encore, quand je dis nous, c'est globalement la nation française, n'a pas réglé le problème de la colonisation en Afrique du Nord et singulièrement en Algérie. Cette question va déboucher sur la création en 1993-1994 de la commission Stasi. Bernard Stasi, qui est conseiller d'État et qui est un ami personnel de Jacques Chirac, va former une commission qui va étudier la question du port des signes religieux dans l'école laïque. Et il y a une contradiction évidente que signale déjà la commission Stasi dans ses premiers rapports, et sur lesquels insistera le professeur Jean Bobéro, entre l'avis du Conseil d'État du 27 septembre 1989 qui stipule la neutralité des programmes et des enseignants, il y a une contradiction, dit le Conseil d'État, entre cette neutralité des programmes et des enseignants et la liberté de conscience que l'on reconnaît aux élèves. Il faut donc arriver à le régler, et on le réglera par la solution qui a été adoptée par la commission Stasi, la solution a minima, qui est une loi qui institue dans les seuls établissements publics la proscription de signes ostentatoires, ou ostensibles plus exactement, signale l'identité religieuse. C'est la loi du 15 mars 2004. Première question que l'on peut se poser, et qui se pose, me semble-t-il, dans notre réflexion, est-ce qu'il n'y a pas là le début de la part de l'État, d'une tentative d'instrumentalisation de la religion. Et avant d'en venir au septième mot-clé qui porte précisément ce terme d'instrumentalisation, je voudrais simplement vous citer une déclaration de la Ligue de l'enseignement de 2003 qui indique que la laïcité doit conjuguer avec la liberté de conscience et le pluralisme des cultures, la justice sociale, pour que la République généreuse, respectueuse des identités et porteuse de diversité soit concrètement chaque jour un peu plus ce qu'elle déclare être dans notre Constitution démocratique, laïque et sociale. C'est peut-être, à mon sens en tout cas, la Ligue de l'enseignement qui pose le mieux le problème du contenu de la laïcité, moins en termes d'interdit qu'en termes d'expansion de tous les termes de la laïcité constitutionnelle, démocratique, laïque et sociale. Les trois ensemble. J'ai posé la question, n'y a-t-il pas le début d'une instrumentalisation ? Eh bien, on va effectivement voir à travers le débat qui existe depuis les années 2000 que c'est le risque principal aujourd'hui dans le champ idéologique. Les années 2000 se signalent en effet par un regain de la problématique laïque dans le champ idéologique et politique. D'abord avec la charte des droits fondamentaux annexée au projet de constitution européenne. L'héritage qui est mentionné dans cette charte des droits fondamentaux est-il, ouvrez les guillemets, culturel, humaniste et religieux, c'est la position d'Allemagne, ou spirituel et moral, c'est la position commune de Jacques Chirac et de Lionel Jospin, qui d'ailleurs finira par triompher. C'est là la première question qui est posée, le regain de la problématique fondamentale. Est-ce que l'héritage est culturel, humaniste et religieux, ou spirituel et moral? Ce qui n'a effectivement pas le même sens. Quant au traité constitutionnel de 2003, il dit s'inspirer des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, et dans son article 5 spécifique, reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec églises et organisations religieuses. On comprend que là, par rapport aux principes définis, même dans les mots par la loi de 1905, il y a quelque chose de choquant, reconnaissant leur identité. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Reconnaître. Il n'y a pas qu'une querelle de mots sur la substance du mot reconnaître. Il y a effectivement un problème par rapport aux principes dont se réclame la République française. Je ne parle pas de la surenchère polonaise et Vatican qui ne faisait qu'une à l'époque, qui demandait d'inscrire Dieu dans le nom de Dieu dans la Constitution. On sait ce qu'il est advenu du traité constitutionnel et de son avatar de Lisbonne. Mais l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy manifeste dans ce cadre par une série d'initiatives particulièrement dense, une vision que, pour ma part, je considère comme instrumentalisée de la religion. Trois discours ont confirmé cette offensive idéologique du président de la République, faisant suite à ce livre publié lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, qui s'appelle « La République, les religions et l'espérance », dans lequel il indique que la France reconnaît un certain nombre de cultes, contrairement à ce que dit la loi. C'est le ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, qui dit « Aujourd'hui, quand une confession veut bénéficier des avantages fiscaux prévus par la loi en faveur des cultuels, l'administration vérifie qu'elle a rempli les conditions juridiques. Cela équivaut à une reconnaissance de fait. Cette reconnaissance pose certes le problème des critères de distinction entre le religieux, les religions et le reste, qu'on désigne généralement sous le terme de secte. Et chacun sait qu'il y a en France, de facto, des religions reconnues qui sont la religion chrétienne, le judaïsme, l'islam et sur le plan juridique, le bouddhisme. » C'est le ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, donc qui remet en cause un des dispositifs principaux de la loi de 1905. Et puis il y a donc ces trois discours. Le discours du Latran, 20 décembre 2007, le président de la République est reçu à Saint-Jean-de-Latran, qui est la basilique privée du pape à Rome, qui est une très belle basilique d'ailleurs, au niveau architectural et artistique. Il y est reçu en qualité de chanoine honoraire de la basilique Saint-Jean-de-Latran, parce que c'est un principe qui remonte, semble-t-il, à Henri IV. Lors de son discours, le président de la République déclare assumer pleinement le passé de la France et ce lien si particulier qui a longtemps uni notre nation et l'Église catholique et romaine. On revient à la France filiée de l'Église. Concernant la loi de 1905, il dit partager les souffrances que sa mise en œuvre a provoquées en France chez les catholiques, chez les prêtres, dans les congrégations, avant comme après 1905. Et il conclut par un feu d'artifice dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal. L'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur. Premier discours, dont le discours du Latran. Discours qui entraînera effectivement une série de réactions extrêmement vives, non seulement d'ailleurs du monde laïque, mais de gens qui ne sont pas forcément dans le monde laïque, qui ne sont pas considérés comme des laïcistes, bien que je n'aime pas ce terme-là étroit. En fait, lorsqu'on regarde ce discours du Latran, on s'aperçoit qu'il y a d'abord le privilège accordé par le président de la République et le président d'une République laïque, démocratique et sociale à ceux qui croient par rapport à ceux qui ne croient pas. C'est une faute morale, d'abord. Deuxièmement, c'est une faute politique, parce que le président de la République n'a pas à exprimer ses convictions personnelles, et il est porteur de la politique de la France, qui jusqu'à preuve du contraire n'a pas abrogé la loi de 1905, et il est là pour représenter l'ensemble des Français, même s'il est élu que de sa majorité. C'est une faute juridique, parce qu'on ne hiérarchise pas entre les confessions, c'est ce qu'avait refusé précisément la loi de 1905. Vous vous souvenez que le Concordat, c'était la religion principale des Français, c'était le catholicisme, puis il y avait les autres. Il y avait les deux autres rites protestants et les juifs. Mais là, il y a effectivement, moi je suis catholique de tradition, il dit, même le général de Gaulle ne l'a jamais dit, je suis catholique de tradition et c'est la religion catholique, bon, qui est la fille, la France, la fille aînée de la religion catholique, de l'Église. Et puis, c'est une faute historique de considérer que le christianisme doit être exempt de toute son histoire, qui est une histoire dans l'histoire de la religion catholique, mais pas simplement dans l'histoire de la religion catholique, qui est une histoire extrêmement contradictoire, pétrie de, sans doute, de grandes valeurs chrétiennes, charitables, mais pétrie aussi d'abominables massacres, d'intolérances. C'est la réalité objective que tous les historiens témoignent. À peine on avait parlé de sortir l'Inquisition ou les bûchers, mais ça, ou les croisades, mais ça fait partie de la réalité à côté de saint Thomas d'Aquin, de saint Augustin, de Thérèse d'Avila, etc., etc. Donc, le discours du Latran est une première tentative de ce que j'appellerais une cléricalisation de la République. Le deuxième discours qui pose un problème, c'est le discours prononcé le 14 janvier 2008 par l'actuel président de la République à Riyad, en Arabie Saoudite. Alors on pourrait se féliciter effectivement que le président de la République aille dans les pays arabes, alors qu'on se sert à l'heure actuelle, et depuis longtemps, mais depuis particulièrement l'arrivée de Nicolas Sarkozy, le président de la République, au gouvernement, des questions liées à l'immigration, et en particulier à l'immigration nord-africaine, on pourrait se féliciter qu'il visite un pays arabe. Mais l'éloge que va prononcer Nicolas Sarkozy de l'islam religieux, il va être prononcé dans un des pays les plus théocratiques qui puisse exister, qui est le pays du courant wahhabite, c'est-à-dire un courant où l'islam est le plus étroit, qui est l'Arabie saoudite. Et il va saluer, non pas Averroès ou Avicenne ou les philosophes qui ont permis la réémergence d'Aristote dans notre patrimoine culturel, il ne va pas féliciter donc cette grande civilisation arabe, mais il va souligner ceci. Ce salut, je l'adresse à la nation arabe et à la communauté des croyants. Je n'oublie pas que pour tous les musulmans, l'Arabie saoudite est une terre sacrée où le prophète a recueilli la parole de Dieu pour l'enseigner aux hommes, certes. Tous les musulmans à travers le monde pensent même à l'Arabie saoudite. D'ici parti, il y a 14 siècles, ni le message d'Averroès, ni le message d'Avicenne, ni la résurgence d'Aristote, le grand élan de piété, de ferveur et de foi qui allait tout emporter sur son passage, qui allait convertir tant de peuples, faire naître l'une des plus grandes, l'une des plus belles civilisations que le monde ait connue. C'est assez, quand on connaît l'histoire, effectivement, du monde musulman, on s'aperçoit que là aussi, il y a quand même un parallèle chez Sarkozy. On se félicite de l'islam conquérant et guerrier, comme l'on a porté sur les fonts baptismaux, si je puis dire, la mémoire de Clovis. Et donc de la nation franque, qui est une nation guerrière également. On a une vision très rétroactive de l'utilité de la religion. Et le troisième et dernier, pour l'instant, événement religieux, politique et religieux, c'est le discours de Paris, le 12 septembre 2008, où Nicolas Sarkozy reçoit à Paris le pape Léon XVI, et se prononce, avec l'approbation totale de Léon XVI, pour une laïcité dite positive. Qu'est-ce que c'est que la laïcité dite positive? Eh bien, je le cite, « Les religions, notamment la religion chrétienne avec laquelle nous partageons une longue histoire, sont des patrimoines vivants de réflexion, de pensée, pas seulement sur Dieu, mais aussi sur l'homme, sur la société, même cette préoccupation centrale aujourd'hui qu'est la nature. Dieu est engagé au service de l'écologie et du développement durable de façon Borloo. Pour Nicolas Sarkozy, je le répète, ce serait donc une folie de nous priver de cet accord. C'est la raison pour laquelle il appelle à une laïcité positive, c'est-à-dire une laïcité qui respecte, qui rassemble, qui dialogue, et pas une laïcité qui exclut ou qui dénonce. Comme si la laïcité excluait et dénonçait, puisqu'elle s'appuie sur un certain nombre de valeurs. Mais il va plus loin. Pour les problèmes de notre temps, la laïcité offre la possibilité d'échanger et va au-delà des croyances et des rites sur le sens que nous voulons donner à nos existences. C'est ce qui explique, ajoute-t-il, que la France a engagé avec l'Europe une réflexion sur la moralisation du capitalisme financier. La laïcité au service de la retraite à 730 000 euros de M. Bouton, président directeur général de la Société Générale. Vous voyez, je déborde effectivement et à l'évidence mon rôle d'historien, mais après tout, nous sommes dans l'actualité. Et le pape Benoît XVI fait écho à Nicolas Sarkozy, lui répond, il est fondamental d'insister sur, écoutez bien les mots, la distinction, pas la séparation, entre le politique et le religieux, afin de garantir aussi bien la liberté religieuse des citoyens que la responsabilité de l'État envers eux, d'autre part, de prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la formation des consciences et de la contribution qu'elle peut apporter avec d'autres instances à la création d'un consensus éthique fondamental dans la société. Et il dit qu'il approuve donc cette notion de laïcité positive. J'en arrive à ma conclusion, qui est la conclusion de cet exposé et celui des quatre exposés donc, que j'étais chargé de faire, en reprenant à mon compte, c'est assez amusant et ça défendra un tout petit peu, les 10 commandements que le professeur Bobéro prescrit pour les laïcs et pour ceux qui ne le sont pas, dans ce petit ouvrage qui est paru il y a un an, je crois, qui s'appelle « La laïcité expliquée à M. Sarkozy et à ceux qui écrivent ses discours ». Je vous en conseille la lecture, elle est particulièrement roborative. Alors le premier commandement, bon, c'est un conseil de discrétion, qui est assez ironique de la part de Bobéro, puisqu'on sait qu'il a refusé, lui, il est le seul qui a refusé les conclusions de la commission Stasi. Il conseille à Nicolas Sarkozy qu'il porte son titre de chanoine d'honneur du Latran de manière non ostentatoire, bien évidemment. Le deuxième commandement, il dit, quand le président de la République, ça c'est beaucoup plus sérieux, me semble-t-il, quand il parle et agit, doit savoir prendre de la distance avec ses convictions parce qu'il est le président de tous les Français dont il assure, en vertu du garant de la Constitution, la liberté de conscience. Troisième commandement, la morale laïque, elle est formée, dit Bobéro, par des valeurs partagées qui fondent le lien social et démocratique. Et la laïcité sépare ces valeurs de toutes les morales, religieuses ou non. En fait, le lien social permet de vivre ensemble, mais pas d'imposer à l'un ou à l'autre une conviction particulière. Quatrième commandement, les sociétés laïques et démocratiques doivent donc élaborer des règles qui leur permettent de s'organiser de façon de se tenir à de manière équidistante des différentes conceptions de ce qu'on appelle le bien, de manière à ne pas privilégier le bien religieux ou le bien athée, mais se tenir de manière à ce que chacun puisse exposer sa manière de voir le bien. Cinquième commandement, qui est la conséquence du quatrième, aucune église et aucune religion ne peut imposer, ne doit imposer ses normes de vie à l'État et à la société. Cela dit, la société ne vit pas dans le vide, Et il y a un caractère pluriculturel. Et ce caractère pluriculturel qui s'accentue en France doit permettre l'expression de toutes les religions, y compris celles qui n'existaient pas au moment de la loi de 1905. Sixième commandement, la laïcité doit veiller à ne pas se transformer en religion civile, c'est-à-dire que on répudie toute morale religieuse, toute morale transcendante, mais il ne faut pas que ce soit pour que la République ou les valeurs républicaines soient une nouvelle forme de transcendance. En fait, on a cette forme de transcendance qui existe, par exemple, aux États-Unis. Là, Dieu existe dans la Constitution des États-Unis, mais ça surplombe les institutions laïques des États-Unis. Septième commandement, c'est un conseil de Bobéro dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, il ne faut pas idéaliser la façon dont la société chrétienne a permis le développement de la civilisation. Les rapports entre le spirituel et le temporel n'ont pas été un long fleuve tranquille, pour prendre une expression bien connue. Huitième commandement, avant de disserter sur la modification possible de la loi de 1905, il faudrait la connaître et se souvenir, et là je partage vraiment ces termes, que c'est un texte de liberté et de neutralité arbitrale face à l'ensemble des confessions, et notamment à l'époque d'un catholicisme intransigeant. Neuvième commandement, la laïcité de 1905 a accompli la rupture que voulait la Révolution française. Allons-nous remettre en cause les principes de la Révolution française? Dixième commandement, la laïcité est en mouvement, elle est un mouvement elle-même, de la constante actualisation de la liberté de conscience et de la liberté de penser, il dépend de nous donc, de la manière dont on va actualiser la liberté de conscience et la liberté de penser de la manière la plus ouverte, il dépend que la laïcité soit une nostalgie ou une projection vers l'avenir. Pour ma part, je souhaite qu'elle soit une projection vers l'avenir. Je vous remercie de votre attention.